Salut tout le monde!
Bonjour mon cher Jonathan Saint-Pierre, disait prof.
Salut Jérémy, comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien. Alors en mode sous-sofa, hein, en pleine COVID avec 1,5 mètre de distance.
Exactement, puis juste pour peut-être s'assurer que tout le monde comprend la situation, moi et Jérémy, on est vaccinés 3 fois, on a eu la COVID dans les 3 dernières semaines. Donc
on a 4 doses.
En théorie, on est pas mal blindés et de toute façon, comme vous voyez, on se tient quand même loin. On est en direct de mon salon aujourd'hui pour le live. On fait quelque chose de différent parce que habituellement, moi et Jérémy, on est chacun dans nos villes différentes. On est au nord du Québec, plus précisément en Abitibi-Témiscamingue, pour ceux qui nous suivent peut-être d'ailleurs sur la planète, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, on est à environ 1h30 de distance de voiture et avec la pandémie, on ne s'est pas vraiment vu autre qu'en ligne pratiquement toutes les semaines et on se parle à tous les jours. Mais là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait d'épisode dans la même pièce.
2 ans, oui.
Fait que là, on en profite. On fait une expérience en même temps. On le fait live. Et comme Jérémy va vous l'expliquer, on veut le faire de façon différente. On veut essayer de répondre à toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre dans les dernières...
Un Q&A, dans le fond.
Oui, exactement. Ouais. Un Q&A, parler un peu de ce qui se passe, donner notre opinion, essayer de répondre à vos questions. Et justement, je vais aller chercher les questions pour pouvoir être capable d'y répondre. Ça serait pratique. Donc... Ça
oui,
va être
puis
aussi la joie de la techno, là, on va faire des expériences.
Exactement, puis il faut rappeler que là, peut-être que la connexion, j'espère que, premièrement, est-ce que vous nous entendez bien? Là, on a fait ça vraiment à la va-vite.
À la bonne franquette.
À la bonne franquette, alors juste faire sûr que vous nous entendez bien et puis que la connexion est bonne, parce que là, on est sur ton Wi-Fi, mon cher. Oui,
exactement, du Wi-Fi de salon. On est quand même assez loin de la borne, donc on espère que ça ne cochera pas trop. Mm-hmm. On va essayer de faire notre gros possible. Il y a quand même 200 personnes qui sont avec nous, donc on va...
Si ça baisse à 22, ben là, on va savoir peut-être qu'il y a un problème ici.
Ouais, mais là, je suis pas capable d'aller chercher les commentaires. C'est ça, je comprends pas.
Et puis, pendant que Joe est en train de regarder ça, sachez que ce live aussi sera disponible en version podcast d'ici quelques jours parce que je ne suis pas à la maison. Je suis dans le coin de Rouen pour... premièrement, je suis allé voir mes parents. Je suis en visite chez mes parents. Et puis, ben, j'ai déneigé ma toiture de roulotte, mon cher. Alors, voilà.
Donc, sans plus tarder, on pourrait peut-être juste commencer par faire un retour sur les dernières choses qu'on a vues dans l'actualité sur ce qui se passe avec l'Ukraine. Mais là, je trouve ça plate parce que tantôt, j'avais mes commentaires, puis là, ils ont disparu.
Oh!
Ça part mal.
Moi, j'en ai ici.
Okay,
on a un Allô Jérémy de Mélissa Métro-Prolol, qui est une ancienne de nos patronnes.
Qui nous c'est... suit encore de
oui.
très, très
assiduité. Oui, qui est tout le temps là.
Avec beaucoup d'assiduité.
Oui, et puis c'est ça, Mélissa qui a été une de nos patronnes, qui est revenue, je crois, à un moment donné, qui est redisparue. Alors, on te réinvite, ma chère Mélissa, à revenir parmi nous.
Il y a une bonne question de François Dubard qui nous demande, est-ce qu'il y a un endroit où on peut écouter nos podcasts absolument partout? Sur la Terre des Hommes est disponible sur Spotify, Apple Music, YouTube, partout. Partout où il y a des podcasts, on est disponible. Il y a quoi? 178 épisodes, plus plein de mini-épisodes
c'est
qui
fou.
Sont disponibles. Là, t'es pas quadré, je te dis ça de même. Là,
ah, OK.
Mais rapproche-toi un peu, t'es. Là,
j'ai peur d'avoir une deuxième infection de COVID. Mais oui, dans le fond, pour le podcast sur la Terre des Hommes, c'est comme tu as dit, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Et puis pour YouTube, là, justement, vu que ce n'est pas un épisode de Sur la Terre des Hommes, on peut juste en jaser. YouTube, par exemple, ce n'est que le son, hein? Ce n'est que le podcast que l'on publie parce qu'on pourrait mettre les vidéos. Excusez-moi, on pourrait mettre les vidéos des podcasts, mais on préfère les laisser pour nos patrons, hein? Parce que oui, là, sinon, ça n'aurait aucune logique. Voilà, on a vu qu'il y a eu plusieurs nouveaux abonnés à Sur la Terre des Hommes podcast. C'est important aussi une autre chose, là, Sur la Terre des Hommes podcast et non Sur la Terre des Hommes parce qu'il y a un ancien feed qui, je crois, qui ne marche plus en ce moment, mais quand même, Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis, on a vu une hausse, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, des nouveaux abonnés.
Hein,
c'est vraiment le fun. Alors, c'est certain qu'on ne parle pas tout le temps de géopolitique comme dans les prochaines semaines, on va faire, hein, n'est-ce pas? Mais surtout de l'histoire, de l'actualité. Depuis que tu es avec moi dans Sur la Terre des Hommes, on consacre beaucoup d'épisodes à l'actualité.
On essaie de faire un équilibre dans tout ça, dans le fond. Un peu d'histoire, ouais. Un peu de géopole, un peu d'actualité, un peu de tout, un peu de sport aussi. On parle de.
Oui, c'est vrai, les hockey. Hein?
Ouais. On essaie de mélanger tout ça pour aller ratisser le plus large possible.
Absolument.
Pour être sûr d'aller chercher votre intérêt. Mais là, c'est sûr qu'avec ce qui se passe, c'est le sujet universel. C'est sûr et certain qu'est-ce qui se passe en Ukraine, c'est le gros morceau, puis on ne peut pas passer à côté parce que ça a une influence sur absolument tout. Ouais. Je salue les gens de Montréal qui vont aller faire de l'essence à 1,84 aujourd'hui.
Ça n'a aucun bon sens.
Complètement ridicule. Je n'ai pas remarqué si tu as vu en chemin, mais je pense qu'on est à 1,72, 1,74 ici en Abitibi.
Ah ouais?
J'ai jamais vu l'essence chargée. Je pense que c'est du jamais vu de toute façon.
Ben, ça n'a aucun bon sens. Hier, je suis allé remplir ma voiture. T'es-tu à batterie?
Je suis hybride, j'ai les deux.
Ah, t'es hybride, toi, OK.
Ouais, fait que hybride. Ça coûte quand même quelques piastres, mais pas mal moins que si j'avais.
Mais il était 1,65 et puis pour une Honda Civic, ça m'a coûté 72 $. alors, voilà.
Donc, ça, on pourrait dire que c'est la principale conséquence du conflit en Ukraine, au Québec, au Canada, probablement aussi en Europe, ça va être la hausse du prix de l'essence parce que la Russie est le troisième exportateur de pétrole dans le monde. Et même si les pays n'achètent pas directement du pétrole de la Russie, ça fait quand même partie du stock mondial. Et si la Russie a plus son stock dans le gros sac de pétrole mondial, ça crée une rareté et ça fait diminuer le prix. Donc, même si le Canada n'achète pas de pétrole à la Russie, le fait qu'il y en ait moins disponible fait qu'il y a une hausse des prix de toute façon. Et 1,84, ça ne sera pas la limite. Je vous ferai la prédiction que d'ici probablement en Pâques, on va buster le 2 piastres du litre, puis peut-être même plus. Puis là, je ne veux pas être défaitiste, mais ça regarde bien, bien mal. Fait que ça, c'est la principale conséquence. Et aussi tout ce qu'on appelle inflation. Parce que si ton essence coûte plus cher, ton transport aussi, ça veut dire que ce que tu vas acheter à l'épicerie, ta caisse de fraises que tu vas acheter à l'épicerie qui est partie de la Californie jusqu'à l'endroit où tu vis, ben, elle va coûter 1,84 le litre tout le long jusqu'à chez vous. Fait qu'elle va valoir probablement plus cher aussi. Fait que tu sais, quand les gens me disent que ça va faire le conflit au Québec, au Canada, ça va être ça. En Europe, c'est sûr que la localisation géographique fait que c'est peut-être un peu plus, je vais dire, anxiogène, stressant parce que vous êtes littéralement sur le même continent, mais nous, on est à 15 000 km. Fait que c'est peut-être une chose pour essayer de réconforter les gens. Demain, dans les prochains jours, tu sais, à court terme, c'est le seul impact qu'on va vivre en étant au Québec, au Canada, c'est que ça va coûter plus cher. C'est quand même un impact négatif, mais j'aime mieux ça que de me faire bombarder à tous les matins comme à Kiev aujourd'hui.
Justement, aujourd'hui, on va parler de ça, de ces bombardements, et puis aussi de possibles bombardements ailleurs, mais je ne l'espère pas, mais il faut parler de toute éventualité. Mais pour revenir à ces conséquences-là, les conséquences en Amérique, oui, bien, quand on parle de l'inflation, premièrement, c'est justement le gonflement des prix. Les prix augmentent. En ce moment, il est à quoi? 5-6? Hein, au Québec. On parle du Québec, là, mais aux États-Unis, il est proche de 8-9% d'inflation. Ça veut dire que c'est 9% de moins de pouvoir d'achat pour les gens.
Donc, en fait, puis, 8 à 9% de tout ce que vous achetez, ça fait un gros total au bout du compte, malheureusement.
Exactement. Il y a des commentaires. On va commencer justement pour ça. On voulait surtout parler de. Moi, je les vois super bien sur. Oui. Ben, justement, j'ai amené mon iPad comme toi, mais j'étais supposé prendre mon laptop pour enregistrer, mais finalement, on ne va pas enregistrer le live d'aujourd'hui.
Oui, on a improvisé quelque chose. Puis là, ouais, vous voyez que c'est mon salon, pas très.
C'est très beau chez toi, mon cher.
C'est juste que c'était pas prévu qu'on fasse un live.
C'est très hot.
J'ai essayé de replacer ça un peu, mais en gros, ouais, c'est pas la place où je suis d'habitude. Habituellement, j'ai mon bureau qui est dans l'autre pièce où vous me voyez toutes les fois. Donc là, on fait différent avec mon petit cadre de l'Égypte qui est le seul qui rentre dans le cadrage de la caméra. Donc, bienvenue chez nous.
C'est vraiment. J'ai fait un peu le tour de ton premier étage. C'est vraiment la maison type d'un prof de monde contemporain. Il y a vraiment des. Vous le voyez pas, là, mais il y a des cadres de globes terrestres partout.
Des cartes du monde,
oui, exactement. C'est vraiment hot. Et puis, j'ai vu justement l'endroit où Jonathan Saint-Pierre-Dieuprof fait ses lives. Je suis choyé.
Dans l'antre du prof.
Oui, voilà. Alors, je suis très choyé. On va prendre le premier commentaire, si tu veux bien, mon cher.
Bombarde des questions en rafale, puis on va essayer de répondre à ça.
Oui, alors, on va bombarder, comme tu dis.
Ouais, j'avais pas pensé, c'est un mauvais jeu de mots. On va y aller à la suite.
À la suite. Florence Bernard, je commence avec toi, ma chère.
Bonjour, Florence. Florence qui participe beaucoup depuis un certain temps. Je pense que c'est une nouvelle abonnée de Joe le Prof. Qui,
ah oui?
Qui a l'air à se connaître beaucoup en géopolitique asiatique, donc je suis curieux de savoir sa question.
Ah, très cool. Elle dit « Beaucoup de sources douteuses disent que l'Ukraine avait bombardé les civils du Donbass s'il y a quelques années. Info ou désinformation? »
Ça, ça fait partie de la zone grise présentement parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires. Ce que moi, j'en comprends et avec tout ce que j'ai lu, c'est que les séparatistes pro-russes de la région du Donbass sont en guerre avec l'armée ukrainienne. Donc, c'est comme si...
Depuis des années.
Depuis des années, exactement. Parce que c'est comme si, dans le fond, ceux qui veulent l'indépendance du Québec se battaient avec l'armée canadienne pour que l'indépendance du Québec se fasse plus vite. Donc, c'est un peu ça qui se passe là-bas. Mais c'est une petite enclave d'une petite partie du Donbass. C'est peut-être le 1/10 de la région du Donbass qui a justement ces groupes... On les appelle, dans le fond, les rebelles pour le bien de la chose. Donc, ces rebelles-là qui se battent contre l'armée ukrainienne, c'est sûr que ça se tire des deux côtés. Une guerre, ça ne se fait pas tout seul. Donc, ça se pourrait qu'il y ait eu des bombardements, mais il y a eu aussi l'inverse. C'est que les pro-russes ont tiré sur l'armée ukrainienne et vice-versa. Donc, on sert de ça comme un prétexte quand, dans les faits, c'est très, très gonflé, c'est très augmenté parce que c'est une petite partie du territoire et non l'Ukraine au complet, qui est quand même le 2e plus gros pays d'Europe après la Russie.
Et puis, comme tu as dit, dans le fond, depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, où est-ce qu'il y a une guerre dans le Donbass entre les pro-russes et puis les Ukrainiens? Justement, Gabriel Chasse-Houd, qu'on salue, qui dit justement, pouvez-vous expliquer un peu la guerre au Donbass? Mais c'est un peu ça, c'est une guerre entre pro-russes et pro-Ukraine, si on
veut. Parce qu'on est vraiment sur la ligne. C'est que dans le fond, entre l'est de l'Ukraine et la Russie, c'est comme si c'était la même place. Tu traverses la ligne, puis c'est tes frères, c'est tes soeurs, c'est ta famille, parce que les gens, dans le temps de l'URSS, se sont installés des deux côtés de la ligne, parce que c'était le même pays qui était l'URSS. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu semblable et c'est pour ça qu'il y a un fort sentiment russe dans ce coin-là. Mais il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens qui sont pro-Ukraine. Donc, il ne faut pas dire que tout le Donbass est pro-russe, mais il faut quand même l'avouer qu'il y en a une bonne quantité. Je n'ai pas de chiffre exact, mais de mémoire, c'est environ 50-50. Donc, c'est un peu particulier comme contexte.
Oui, puis il y a des pro-russes aussi. Là, on parle du Donbass, mais tu peux avoir des pro-russes genre à Mariupol ou en Crimée, à Kiev, comme tu dis. Il y en a un peu partout. Moi, je compare un peu ça, ce conflit-là. On peut faire plusieurs comparaisons. Comme nous, en Amérique du Nord, à quoi qu'on pourrait comparer ça, l'invasion russe en Ukraine? C'est un peu comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est la Russie. Et puis, l'Ukraine, c'est le Canada. Et puis que les États-Unis envahiraient, genre, par exemple, l'Ontario, en disant, ben il y a des pro-Trump dans ce coin-là. Alors, on va envahir l'Ontario parce que, justement, il y a des pro-Trump.
Du gouvernement canadien, et nos pauvres pro-Trump qui sont massacrés, qui sont maltraités,
Des pro-Trump, justement, des pro-Trump qui sont menés par...
Maxime Bernier.
Un gouvernement néo-nazi, le gouvernement néo-nazi de Justin Trudeau. Voilà.
C'est facile de faire du spin. On a juste à prendre une histoire.
C'est complètement fou.
Ouais. Fait que c'est là où ça devient dangereux. Puis le Donbass, c'est touché parce qu'il faut démêler le vrai du faux. Puis pour de vrai, je pense qu'il faudrait être sur le terrain pour avoir la bonne réponse. Fait que j'essaie du mieux que je peux de vous l'expliquer. Je suis peut-être dans le champ, je suis peut-être dans le target, mais c'est moi, ma compréhension de prof de monde contemporain avec ce que j'ai vu et j'ai lu des deux côtés, parce que j'essaie aussi d'aller chercher l'info du côté russe, parce que sinon c'est un peu biaisé.
Mais c'est dur, tu sais. Moi, de mon côté, j'ai essayé justement d'aller voir des médias, des articles pro-russe, mettons. Mais c'est dur. Tu peux le lire et dire « OK, c'est ça leur version », mais en même temps, c'est-tu vrai?
C'est la version
du Kremlin, C'est ça, la version
Kremlin,
de Poutine, la version du Kremlin, la version russe. On peut s'informer avec les médias, les médias russes, mais en même temps, il faut dire que ces médias russes-là ont été choisis, ont été triés sur le volet pour véhiculer le message
du
Kremlin.
Ils ont une ligne éditoriale, puis ils n'ont pas le droit de déroger, parce que là, il y a des médias qui se font fermer, il y a des radios, des journaux, des postes de télévision qui ne sont pas, je veux dire, sous le contrôle de l'État, qui se font mettre la clé dans la porte parce qu'ils ne peuvent pas rester objectifs, ils ne peuvent pas rester indépendants. Fait qu'ils se disent, tant qu'il y a passer le message pro-russe du gouvernement. On va juste fermer pour éviter de faire encore plus de désinformation qu'il y en a.
C'est incroyable.
C'est complètement fou.
C'est incroyable. T'sais, on parle, pendant la pandémie, on dirait que ça s'est éteint complètement, ce message. Est arrivé l'invasion russe, mais quand on parle de dictature, quand on parle de médias subventionnés, quand on parle de médias qui sont à la solde d'un gouvernement, ben là, vous avez la preuve, c'est quoi? Des médias à la solde d'un gouvernement ou bien un gouvernement qui dit à des médias quoi dire. On l'a l'exemple, c'est ça.
En aucun cas, le gouvernement du Québec et du Canada, là, je prends autant Justin que François, et probablement la même chose en France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de la France aussi. Emmanuel Macron, il n'y a personne qui va dicter une ligne éditoriale. Ils peuvent suggérer des choses et le journaliste en fait ce qu'il veut. Il y a les communiqués de presse et compagnie, mais il n'y a aucun média, même Radio-Canada, qui est un média d'État, n'est pas sous l'obligation de passer le message gouvernemental. Donc, quand les gens vous disent ça, c'est simplement parce que c'est un message qui est depuis très longtemps véhiculé par Donald Trump aux États-Unis, parce que les médias ont essayé, avec raison, de nuire à Donald Trump en exposant ses mauvais coups, en exposant ses défauts, en exposant le fait que c'est une crapule. Et lui, son seul moyen de se défendre, c'est de dire « c'est pas moi le problème, c'est les médias qui sont fake news, c'est les médias qui inventent. Ouais. » Et ça a comme créé une espèce d'intoxication mondiale envers les journalistes. C'est pas normal qu'on attaque des journalistes quand les journalistes font juste chercher à exposer ce qui se passe vraiment. Si tu veux fermer la trappe d'un journaliste, c'est que tu as quelque chose à te cacher puis tu le sais que tu es dans l'erreur. Donc, quand on voyait les gens s'en prendre à des journalistes dans les convois à Ottawa ou ailleurs, c'est peut-être parce que c'était eux qui étaient dans l'illégalité puis ils voulaient pas se faire pogner en train de faire des mauvais coups. Donc, faites attention à ce discours-là. Même si je suis vraiment pas un fan de l'Empire québécois, ils ont le droit de faire leur reportage de la façon qu'ils veulent, en autant que ça soit d'un côté éthique. Là, on s'entend que là, on pourrait peut-être en discuter sur l'éthique de Québécois, puis, mais il n'y a personne qui les force. C'est eux-mêmes qui décident qu'est-ce qui est dit dans leurs médias.
Tu sais, imaginez le scandale que ça ferait justement d'avoir une ligne éditoriale venant soit du gouvernement du Québec, du Canada ou de l'entreprise privée. On va prendre Québécois pour cet exemple-là. Imagine le scandale que ça ferait parce que ça sortirait au grand jour. Il y aurait un journaliste, si, admettons, il y aurait autant de désinformation au Québec que nos médias essaieraient de nous vendre quelque chose, il y aurait au moins un journaliste qui dirait, avec une preuve, on se fait dire de dire ça, etc.
De toute façon, le message serait le même partout, puis il n'y a pas un média qui présente les nouvelles de la même façon.
Exactement, exact.
Dès qu'il y a une dissension comme ça, c'est signe que ce n'est pas le même message. Puis, tu sais, oui, on sait qu'il y a des médias qui sont plus proches d'un parti politique puis de l'autre. Ça a toujours été de même. C'est le Devoir, plus péquiste. Le Parti libéral avec la presse, Radio-Can va être un peu avec tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il y a des suites idéologiques dans tout ça, mais il n'y a pas d'obligation. Puis à l'intérieur d'un média, si je prends la presse, il y a des gens qui vont être pour tous les partis. Et c'est ce qui fait que, dans le fond, tu as une information variée et que des endroits comme en Russie, tu ne l'as pas parce que c'est Poutine ou c'est rien. Donc, si tu peux juste parler de Vladimir Poutine, comment tu peux être objectif et critique? Tu ne peux pas. Donc, ça te donne un message qui est complètement biaisé.
C'est le fun que tu parles de ça, Joe, parce que j'avais oublié pourquoi on parlait de médias corrompus au Québec. C'est à cause de la Russie.
Mais on est parti ailleurs, mais en même temps...
Complètement, j'avais oublié. Mais... J'ai envie de me dire, mais pourquoi qu'on parlait de ça?
Pourquoi qu'on fait un live?
Ouais, qu'est-ce que je fais? Mais non, mais ça pour dire, c'est ça. Regarde, concernant les médias, c'est... Il y a quelque chose d'autre que je voulais amener, mais je vais le ramener plus tard parce que je l'ai oublié encore.
Une autre question.
Oui, parce que justement, il y a d'autres questions, puis on est en train de perdre le fil comme la dernière fois, mon cher.
Ben là, c'est parce que je sais pas si on l'a dit en début, mais on n'a rien de préparé. On est juste assis sur
mon divan. Je suis arrivé il y a 20-25 minutes avec mes affaires. Bon, ben go, plug tes affaires. Moi, j'amène mon micro, puis let's go. On n'a pas fait de pacing, c'est vraiment une jasette comme ça avec vous.
Exactement, mais on avait quand même des grandes lignes, mais on est bon pour improviser. Les profs, c'est pas mal notre force, se revirer sur un dissent et être capable de parler pendant une heure et quart sans modification.
On a fait Stel qui dit « Mes filles de 19 et 11 ans se sont jointes à moi, alors 11 ans, on va essayer de ne pas trop sacrer. »
Ouais, mais habituellement, je suis très radio-canadien, je suis capable.
Ouais, toi, t'es capable, oui.
Ouais, mais en même temps... Il y a une fois, je pense, j'ai sacré dans un des podcasts, mais c'est parce que...
Le dernier, quand on n'était plus capable des messages disant « Ah, ben moi, j'aimerais bien mieux avoir Poutine que Trudeau.
Okay. » Ça, c'est une affaire aussi. Là, présentement, je ne le vois pas, mais il y a beaucoup de pro-Poutine qui envahissent mes publications depuis une semaine. C'est, C'est complètement fou. Et j'ai fait le lien dans le dernier live, puis je tiens à le refaire, puis je sais, je vais me faire lancer de la haine, puis je m'en fous. Il y a une progression qui se fait présentement, et c'est partout sur la planète. Vous remarquerez que c'est probablement ça aussi, ceux qui sont en Europe. Je vais prendre l'exemple du Canada. Québec. Il y a eu un mouvement, on va dire, raciste, un peu partout en Occident, avec la montée de l'extrême droite aux États-Unis. Le Parti républicain est un parti qui est vraiment très, très, très de droite. Au Québec, on a vu un peu la même chose avec des groupes identitaires comme la Meute, comme les Soldats d'Odin et compagnie. Et ces gens-là, tranquillement, sont devenus pro-Trump parce qu'il y avait beaucoup de liens entre les gens qui ont des idées racistes et le programme de Donald Trump qui est littéralement basé sur la haine des Mexicains. Donc, quand tu t'en prends à un groupe ethnique, c'est signe que tu as une politique identitaire assez raciste, merci. Et ces pro-Trump-là, à la défaite de Donald Trump, sans leur sauveur, sont devenus tout d'un coup des anti-mesures sanitaires. Donc, il y a vraiment une progression dans leur discours, dans leur évolution. Donc, ils ont été anti-mesures sanitaires. Et là, comme la pandémie, vous voyez, on est à moins de 2 mètres, on est, tu sais, vers la fin, là, je vais peut-être parler trop vite, mais on est vraiment plus dans un après-pandémie ou dans un côté endémique. T'sais, on parle au Québec d'enlever complètement les mesures sanitaires d'ici un mois, plus de masques, plus rien. Donc, ces gens-là auront plus de discours, ils pourront plus continuer à faire leur spin médiatique sur la pandémie. Donc, tout d'un coup, ces gens-là sont devenus pro-Poutine parce que je crois, puis ça, c'est vraiment une analyse très personnelle, c'est des gens qui ont un problème d'opposition, sont pas capables, dans le fond, de se voir dans la majorité, et il faut toujours qu'ils soient en opposition ou en confrontation.
Anti quelque chose.
Exactement. Moi, je compare ça à ceux qui prennent pour Boston au hockey. Tu as toujours quelqu'un dans une game de hockey qui prend pour Boston quand tout le monde prend pour le Canadien parce qu'il veut être le contraire des autres. Et c'est un peu ça qu'on voit présentement. Et ceux qui sont pro-Poutine, souvent, ont aucun argument. Le seul argument, c'est Poutine, il est bon pour la liberté. On s'entend que présentement, c'est le pire dictateur sur la planète. Donc, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationalité. C'est simplement parce que ces gens-là cherchent, je veux dire, pas un sauveur, mais presque en même temps, ils cherchent quelqu'un sur qui s'accrocher pour se dire « c'est la personne qui va nous sauver de tous les problèmes qu'on vit » parce que, selon plusieurs personnes, c'est ce que ça prend. Ça prend une espèce de héros mondial qui va nous enlever de tous les problèmes. Et là, vu que Donald Trump n'a pas été ce héros-là, bien, tout d'un coup, c'est qui le numéro 2? C'est Vladimir Poutine. Et honnêtement, une chance que Donald Trump n'est plus président des États-Unis. Imagines-tu le mix Donald Trump, Vladimir Poutine? Présentement, je pense qu'on ne pourrait même pas se parler parce qu'on serait dans un bordel complètement incontrôlable. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est la meilleure chose dans cette situation atroce-là. C'est que Donald n'est pas dans le décor, du moins pour le moment, jusqu'à environ 2024, là, au minimum.
T'as-tu vu pour Donald Trump, il y a quelques jours, au début du conflit, il y a à peu près 6-7 jours, il disait que, c'était un tweet de Raphaël Jacob qui disait que Donald Trump aurait dit que les États-Unis devraient faire la même chose avec le Mexique.
Wow.
Et puis, deux jours...
regardé par en bas.
Ouais, c'est ça. Deux jours plus tard, il disait que il faut regarder ça plus de près pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis là, c'est le silence radio du côté de Donald.
Ben, en fait,
c'est le silence radio parce qu'il se rend compte que qu'est-ce qui est beau en ce moment? C'est sûr qu'il y a des gens, comme tu dis, qui sont anti-autorité, etc.
Exactement, c'est anti-autorité. Mais, c'est la figure d'autorité. Peu importe ça va être qui, ils vont être contre cette figure-là. Mais contre...
les États-Unis sont en train de eux qui ont été séparés, pendant des années depuis 2016, depuis le règne de Trump, sont en train de se réunir autour de cette cause-là. C'est certain, il y en a qui disent que, tu sais, Poutine, pas qu'il fait bien, mais un peu dans ce sens-là. Mais la majorité des Américains ne sont pas pour cette guerre.
En fait, les chiffres que j'ai vus ce matin qui ont été partagés par M. Fournier de 338 Canada, dont j'ai oublié le prénom, je m'excuse. Donc, ouais. Il disait que c'est 76% des Américains qui appuyaient la politique de Biden contre l'Ukraine, puis c'est juste 13% qui étaient pour Vladimir Poutine. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient juste ni un ni l'autre. Puis ça, c'est correct aussi, tu as le droit
d'être... Ah oui, tu as le droit d'être neutre, là.
Tu as le droit d'être neutre. Puis ceux qui sont pro-Poutine, c'est souvent ceux qui n'ont pas les arguments. C'est pourquoi? Ben c'est parce que c'est dur d'avoir des discussions avec ces gens-là parce que leur argument va être la contre-attaque directement. Donc, c'est sûr que si ton argument, c'est d'attaquer la crédibilité de l'autre, ça montre que ta défense est un peu faible. Donc, puis au Québec, pour ceux qui se posent la question, ou plutôt au Canada, c'est 84% qui est pour, l'Ukraine et le côté pro-Biden. pour Vladimir.
Puis en même temps, c'est important de dire qu'on n'est pas, tu sais, on ne fait pas ces lives-là puis nos podcasts pour faire du Poutine bashing parce qu'il était bon pour le faire lui-même.
Ben oui,
mais c'est d'expliquer un peu les enjeux, etc. On a un commentaire.
C'est la figure numéro un sur Terre. Là, on n'a pas le choix.
Oh, oui, en ce moment.
On ne peut pas juste faire comme si de rien n'était, comme avec n'importe quel dirigeant qui ferait des niaiseries. Il faut qu'on en parle parce que c'est la façon qu'il faut. Si on veut comprendre, il faut s'informer. Puis si on veut s'informer, mais il faut trouver des façons de le simplifier, puis de le vulgariser, puis de l'expliquer, puis de le réexpliquer pour être sûr que tout le monde ait la même compréhension du même problème.
J'avais un commentaire, mais qui est disparu malheureusement parce que sur, sur le live, il y a tellement de commentaires qu'il y en a qui s'effacent par eux-mêmes parce qu'il y en a trop. Chantal Broodkurt, j'espère que je prononce ton nom de famille comme il faut. Je m'inquiète beaucoup de l'épidémie de désinformation au Québec et au Canada sur la pandémie, le conflit de l'Ukraine. On vient d'en parler, ma chère Chantal, justement. La pandémie est sur le point de finir. On en parle quasiment plus aux nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on parle de la guerre en Ukraine et puis ces gens-là s'en aillent vers ça. Il y en a vraiment beaucoup. Ça n'a aucun bon
sens. On est encore plus de 200 personnes qui nous écoutent. Ça veut dire qu'il y avait un certain intérêt encore pour le live. On vous remercie d'être là. On espère que, de un, mon Internet ne fait pas trop cocher la vidéo, que le son et que l'image est toujours bonne et que vous passez un agréable moment ce jeudi après-midi. Je sais que c'était un peu dernière minute. Comme je vous ai dit, on a décidé ça. Il était quoi?
Ce matin, puis comme je t'ai dit en arrivant, moi j'étais en train de déneiger ma toiture de roulotte de fifth wheel. Mm-hmm. Et puis il a fallu que je parte vraiment rapidement parce que j'étais un peu en retard. J'entends quelqu'un me dire que Poutine est bon pour la liberté. Selon l'ami de mon chum qui habite à Saint-Pétersbourg, on est loin de la liberté là-bas. Ben, c'est justement, on voit une image.
On voit l'image qu'ils veulent nous montrer.
Ben oui, exactement. Tu sais, on voit ce qui sort de Russie comme image médiatique de la Russie, parce que c'est sûr qu'on a des correspondants de Radio-Can, de différents médias là-bas qui nous.
Il y a beaucoup de journalistes qui nous amènent aussi.
Exactement. Les images qui nous sont envoyés par la Russie, c'est ce qui, selon la censure, devrait passer.
Ouais,
exactement. Mais sinon, les images qu'on voit de nos correspondants québécois, ben, on voit des gens qui tentent de fuir. Je ne sais pas si tu as vu, Joe, il y a des gens, oui, qui fuient de l'Ukraine, mais depuis deux jours, il y a beaucoup de gens qui fuient de la Russie.
Ouais,
il y a des Russes qui s'en aillent.
Ils ne veulent pas être associés à ça, puis je les comprends tout à fait. Mm.
Florence Bernard qui dit « C'est vraiment très logique vouloir faire la même chose avec le Mexique, mais construire un mur pour les séparer d'eux. » Point d'interrogation.
Mur qui n'a jamais été complété, soit dit en passant.
C'est drôle, tu veux te séparer, mais là, OK, là, on devrait les envahir.
Ben, on défait le mur, mais on parle.
Ça, il y a le mur.
Il y a beaucoup d'incongruences comme ça.
Et voilà. Marie-Hélène Cormier, « Je suis plus stressée par les Trumpistes parce que les gens les supportent. Et qui les supporte, excuse-moi, choisissent de le suivre. En Russie, ils ont le choix entre Poutine ou la mort. »
Exactement. Il n'y a pas d'opposants parce qu'on en a parlé un peu dans les derniers lives. Tous ceux qui sont opposés à Vladimir Poutine sont soit morts ou en prison et ou disparus. Donc, tu ne peux pas t'opposer au tsar Poutine. Tandis qu'aux États-Unis, c'est malgré tous les défauts qu'on peut trouver à ce pays-là, tu peux encore dire absolument ce que tu veux.
Et il y a beaucoup de défauts sur ce pays-là. Ouais. J'aimerais beaucoup faire un épisode sur la Terre des Hommes, sur les conflits que les Américains ont provoqués. Parce que là, on peut critiquer la Russie avec l'Ukraine. Mais qu'est-ce que les Américains ont fait en Irak?
En Afghanistan. En Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans plusieurs pays, ouais. Moyen-Orient. On peut
D'essayer de placer des pions, quasiment des assassinats politiques.
Ah, il y en a eu beaucoup.
Il y en a eu beaucoup de la part des États-Unis.
Il y a placé beaucoup de politiciens pro-américains pendant qu'il y avait une élection démocratique, qu'il y avait eu un président de gauche parce qu'on avait la peur du communisme ou des choses comme ça.
Fait que non, moi, je veux amener ça, c'est très important. Ouais. On n'est pas pro-États-Unis. Non, ils ont vraiment beaucoup de tort.
On est pro-paix, en fait.
Oui, pro-paix. Puis on essaie d'amener les faits, mesdames et messieurs. Oui,
exactement.
Ouais,
faut mettre en contexte aussi. Tu sais, ça fait partie de ce travail d'histoire. C'est que là, présentement, c'est la Russie qui est l'agresseur. Ça va être un autre pays. On aurait parlé d'un autre pays. Mais là, en date du 3 mars 2022, c'est la Russie qui est la plus proche de nous amener vers un conflit aux conséquences internationales.
Ouais. On a un commentaire de Vanessa Lamy qui dit « Je vous trouve tellement pertinent, messieurs.
Ah, okay, »
C'est très gentil, merci.
Des fois, on n'est pas ça. C'est rare que je me réécoute, honnêtement. J'aime pas le son de ma voix. Fait que souvent, quand ouais, c'est live,
drôle.
Ça repart.
C'est vraiment drôle parce que quand j'ai commencé à faire du podcast, pas avec Sur la Terre des Hommes, mais un autre qui s'appelait Maillet Podcast, qui était humoristique. Si vous voulez retrouver ça, c'est Maillet comme John Mayer, mettons, M-A-Y-E-R. Pas de côte comme P-O-D-C-O-A-T, comme pas de côte.
Pas de manteau.
Oui, puis quand j'ai commencé à faire ce podcast-là, j'ai réécouté les épisodes juste pour voir si le son était bon. Pas pour me trouver bon.
Niveau
parce
technique,
que,
ouais.
Niveau technique, tout ça. Mais maintenant, avec Sur la Terre des Hommes, on en fait tellement, mon cher.
On est rodé.
Oui, puis ça serait impossible. Il faudrait que je lâche ma job pour réécouter nos podcasts. Alors, voilà.
On fait confiance. C'est vos commentaires qui déterminent si c'est bon ou mauvais.
Exactement. Puis si c'est mauvais, ben écoutez, c'est pas qu'on veut amener du hate envers ceux qui ne nous aiment pas, mais on n'a pas besoin de ça.
Il n'y a personne qui vous oblige à nous écouter.
Ben, c'est justement.
Il n'y a personne qui vous oblige à nous suivre non plus. Puis ça, je le
exactement,
dis souvent,
c'est ça.
Quand les gens s'acharnent sur soit ce qu'on fait dans le podcast ou ce que je fais sur Jour le Prof, je t'ai pas forcé.
Ce sont des gens malheureux, mon cher, j'entends.
Ouais, je pense que oui, c'est ça qui est triste. Ouais. Il y a beaucoup de détresse présentement, puis je le vois depuis la dernière semaine.
Ouais.
Puis je vais passer le message pendant qu'il y a des gens qui nous écoutent. J'ai pas beaucoup de patience présentement envers ceux qui sont moindrement agressifs et ou pas de bonnes intentions. Fait que le bloc qui va très rapidement, les suppressions de messages aussi, et en privé également, je réponds pas aux gens qui font juste me crier des bêtises. Donc, ne perdez pas votre temps à aller le faire ailleurs parce que ça ne me fera rien.
Parce que nous, on fait ça pour le plaisir.
Exactement.
T'sais, on fait ça pour le plaisir, puis c'est pas pour justement pour polariser les gens.
Non,
si vous sentez qu'on peut
dédramatiser les
gens. C'est ça. Si vous sentez que Jonathan le prof, de ton côté, et puis Sur la Terre des Hommes, on tente de polariser et qu'on essaie d'amener une seule opinion. Détrompez-vous parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire dans ma vie, dans mon temps.
J'ai déjà assez de
temps
comme ça qui maïsse, je ne suis pas obligé d'en avoir plus nécessairement.
Exactement. OK, là, ça pop de partout. J'ai une demande spéciale, Laurence Labelle, avant que ça s'en aille. J'aimerais beaucoup avoir un portrait de style, dernière heure de l'État en Ukraine. Merci les gars pour votre bon travail. Alors, qu'est-ce qui se passe en Ukraine dans les 48 dernières heures?
Il y a eu une deuxième rencontre de paix, en Biélorussie entre les représentants ukrainiens et russes, puis ça avance pas parce que les Russes, dans le fond, veulent deux choses. Ils veulent la démilitarisation totale de l'Ukraine et ensuite la neutralité totale de l'Ukraine aussi. Donc,
dénazification.
La dénazification aussi. Ouais. Fait que dans le fond, c'est des choses qui sont irréalistes. Fait que leurs demandes sont tellement hautes que peu importe ce que l'Ukraine va proposer pour essayer d'aller chercher un accord de paix, ça ne marchera pas parce que Poutine, dans le fond, ce qu'il veut, c'est absolument tout. Donc, présentement, les accords de paix, c'est plus pour bien paraître, c'est un peu pour la forme, pour montrer qu'on essaye, mais dans les faits, il n'y a pas de tentative de paix présentement. C'est peut-être une diminution des conflits, mais en même temps, depuis les derniers jours, les Russes bombardent encore plus qu'avant, utilisent des nouvelles sortes de bombes, des bombes thermo.
Ouais, c'est quoi ces bombes-là? C'est comme une espèce, pas une bombe atomique, ça fait un champignon.
C'est une bombe avec un effet vacuum qui aspire les choses. Faudrait que j'aille vérifier, là, parce que honnêtement, j'ai pas trop compris, mais c'est des bombes thermo. Barrique, en tout cas, excusez si j'ai oublié le mot.
On n'est pas des experts, on aurait dû demander à Stéphane d'être là.
Oui, mais il y a peut-être quelqu'un qui va nous l'écrire au pire dans le chat. Mais tu sais, c'est que là, présentement, les bombardements augmentent toujours de plus en plus et c'est de plus en plus violent.
Thermobarique, qu'on
dit. Thermobarique, exactement. Parce que là, dans le fond, Poutine est en train de polier les nerfs, ça ne va pas aussi vite qu'il pensait, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'il pensait. Et là, il s'en prend à des civils. Donc, on a vu des images de villages qui ont été bombardés, qui n'avaient aucun rapport avec la guerre. Des bâtiments, des bâtiments universitaires, des bâtiments avec des habitations à l'intérieur. Donc, il n'y a comme plus de distinction. C'est qu'on tire et on bombarde n'importe où pour augmenter la pression, pour rendre ça encore plus stressant, plus violent, pour ultimement faire capituler l'Ukraine.
J'ai vu un hôpital se faire bombarder dont il y avait des services de traitement du cancer pédiatrique aussi. Ça m'a beaucoup touché parce que j'ai vécu ça dans ma famille et puis on en a parlé justement dernièrement avec un de nos patrons qui a vécu ça. Quand c'est rendu que dans ta guerre, tu dis qu'un objectif de frappe, c'est un hôpital pédiatrique pour le traitement du cancer, t'es rendu vraiment bas.
Effectivement, ou juste s'en prendre à des garderies aussi, ou à des écoles. Il y a beaucoup de garderies et d'écoles qui ont été détruites.
Garderies.
c'est, on va dire, c'est probablement ce qu'ils appellent un dommage collatéral, mais c'est un dommage vraiment important. Donc, tu as beau vouloir dire que tu as détruit la cible à côté, mais tu as détruit celle-là aussi. Ça s'excuse.
Florence Bernard, qui dit « Mon père est un ancien gradé militaire qui a fait plusieurs conflits internationaux. Il est persuadé que ça va dégénérer en Troisième Guerre mondiale, mais pas nucléaire. Okay? Car Poutine sait que la riposte pourrait être la même ou pire. » C'est un peu logique, tu sais. Parlons un peu de ce conflit.
Il y en a beaucoup qui ça les stresse, justement, ce fameux conflit nucléaire.
Ben moi, ça me stressait il y a plusieurs jours, mais maintenant, il faut se dire qu'un conflit nucléaire entre la Russie et l'OTAN, et puis là, il faut faire vraiment la distinction entre l'OTAN et les États-Unis.
Oui, exactement. Parce qu'il y a d'autres pays dans l'alliance de l'OTAN.
Ben oui,
mais une puissance assez importante aussi.
Exactement, mais c'est les États-Unis qui ont le plus gros de l'armement nucléaire. Sinon, tu as la France et c'est tout.
Le Royaume-Uni aussi. France et Royaume-Uni ont à peu près.
Ils l'ont, eux autres, l'arme atomique.
Il y a trois pays dans l'OTAN qui ont la bombe atomique. Et ça, c'est sans compter le fait que les Américains en ont peut-être placé dans des pays de l'OTAN sans qu'on soit au courant. Ça se pourrait très bien aussi.
Mais c'est qu'un conflit nucléaire, c'est purement et simplement de la folie. Et puis, c'est la fin de l'humanité. Tu sais, je
vois pas comment
tu pourrais
te relever de ça. Tu sais, on peut pas s'enlever de ça. Il n'y a pas d'argument pour faire ça parce que faire ça, ça signifie la fin de la Russie. Tout simplement.
Oui, parce qu'aux dernières nouvelles, elle fait partie de la planète.
Exactement. Tu ne peux pas te soustraire des conséquences d'une guerre atomique. Donc, c'est une menace, c'est une intimidation, mais je ne peux pas humainement croire que c'est possible. Donc, je ne sais pas si ça vous réconforte, mais c'est la dernière chose qui me passe par la tête en ce moment. J'ai beaucoup plus peur qu'on voit une augmentation de la violence dans l'Ukraine et que l'Ukraine se fasse charcuter que de voir une bombe atomique.
Et puis aussi, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que l'armement atomique, oui, ça existe des endroits, okay, ce qu'on appelle, mettons, des bombes atomiques en silo. Ça veut dire que c'est des bombes qui sont dans des espèces de cylindres dans la Terre et puis sont lancées comme ça à l'aide du fameux piton atomique. Mais la plupart des bombes ne sont pas en silo. Elles sont, il faut que tu les prennes, tu les charges à bord d'un avion, un peu comme Nagasaki et Hiroshima.
Exactement, elles ne sont pas prêtes à utilisation demain matin.
C'est ça, tu peux pas. Juste pour dire que les États-Unis ont environ quoi? 5500 têtes nucléaires?
5500,
6500,
dépendamment des sources.
Et puis, l'URSS et la Russie en auraient plus de 6000. Mais ce n'est pas 6000 bombes enterrées, prêtes, let's go, 6000 bombes s'en vient sur nous autres. Ce n'est pas ça.
Et ça, c'est peut-être juste des chiffres qu'on a gardés. C'est peut-être des bombes qui datent de la guerre froide des années 50 puis qui sont plus fonctionnelles, mais qu'on les garde juste pour faire peur avec le nombre total.
Absolument.
Ça peut être ça aussi.
Absolument. Et puis, j'écoutais un podcast, mon cher Jonathan Saint-Pierre, le prof, en m'en venant. Ça s'explique de Radio-Can. Où est-ce qu'il y avait un professeur d'université, justement, qui parlait de l'armement atomique, pas juste de la Russie, mais des États-Unis. Et puis, ces armes atomiques-là ont surtout été produites pendant la guerre froide.
Exactement. Il n'y a pas de nouvelles bombes qui ont été faites nécessairement.
C'est ça. Puis, lui, qu'est-ce qu'il disait, c'est que si on veut utiliser ces bombes-là, en ce moment, le système de lancement, c'est pareil comme si tu achetais, mettons, une Chevrolet de 1980 ou 1978 et puis que tu essayais de la chauffer en 2022. C'est encore un ancien système que les deux nations ont.
Peut-être juste pour en parler, parce qu'il y en a qui ont peut-être la question en tête, les pays qui ont accès présentement à des bombes atomiques, Russie, États-Unis, France, ouais. Royaume-Uni, Israël, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord, la Chine. C'est les pays présentement qui ont officiellement...
Le Pakistan, hein?
Ouais, parce que l'Inde et le Pakistan sont en conflit depuis longtemps, fait que les deux pays ont la bombe nucléaire. Et ce qui est particulier, c'est que l'Inde a été capable d'aller chercher sa bombe nucléaire grâce à la technologie canadienne, parce qu'on leur a donné des technologies pour construire des centrales nucléaires et ils l'ont détournée pour faire une bombe atomique.
OK.
Donc, on est un peu responsable.
On a un commentaire de Karine Krubil, qui vient de disparaître, mais... Est-ce que tu as vu que dans les nouvelles qu'un avion russe aurait survolé l'Arctique?
Ben en fait, il y a un avion russe qui aurait été obligé d'atterrir d'urgence à Yellowknife et c'est un avion russe qui s'en allait faire une mission à Resolute Bay selon les sources de Radio-Canada. Donc, c'était des gens de la Russie en territoire canadien. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? On ne le sait pas, mais ça montre que présentement, la Russie fait aussi de l'intimidation sur d'autres pays. Il aurait survolé aussi la Suède juste pour le plaisir de les intimider, pour dans le fond leur dire « calmez-vous les nerfs, c'est nous les boss ». Donc, soyez pas surpris, on va commencer à entendre des nouvelles comme ça. Et le but est simple, c'est qu'on veut faire peur aux autres pays pour éviter qu'il y ait des interventions. Parce que, T'sais, Vladimir Poutine veut qu'on y laisse le champ libre. Fait que c'est sûr que s'il voit des pays comme le Canada qui mettent des mesures, il va essayer d'intimider pour que les mesures cessent.
Exactement. Un autre commentaire de Chantal Brodkert. J'adore ces commentaires-là de Chantal. Est-ce que tu la connais? Non?
Je la connais pas.
Parce que c'est tout le temps des bons commentaires depuis le début du live.
Mieux.
J'ai peur que Poutine ne fasse que ralentir pour faire plus souffrir plus longtemps l'Ukraine.
Ça pourrait c'est être ça vrai. Aussi, parce qu'il y a vraiment... Il a l'air d'avoir une haine viscérale envers...
Ça n'a aucun sens, mais c'est bon,
en
c'est vrai.
Quand ton discours de déclaration de guerre, c'est qu'un peuple n'existe pas et que ce peuple-là devrait ne plus exister.
Ça ressemble à la solution finale d'Hitler.
C'est très, très sans. C'est... On peut faire des parallèles entre les deux. C'est quand même drôle que la personne qui veut dénazifier fasse des choses que seuls les nazis ont faites dans l'histoire. Il faut quand même...
Je ne sais pas si c'est vrai. Okay, là, on jase. Là. Sandra Coulombe qui dit « Avez-vous vu le milliardaire russe qui offre 1 million pour la capture de Poutine? »
Je l'ai vu, c'est une nouvelle confirmée.
C'est-tu vrai?
C'est un milliardaire dissident dont j'ai oublié le nom, mais qui est plus en Russie, qui est en exil. On comprend pourquoi.
Il offre 1 million pour capturer
Poutine. Une mise à prix sur la tête de Vladimir Poutine. Et ça vient un des sujets que je voulais quand même dans le pacing. On va en profiter. C'est une bonne info. Parce que la solution à ce conflit-là ne viendra pas de l'international. Ne viendra pas du Canada, ne viendra pas des États-Unis, de la France, de l'OTAN. Ça va venir de la Russie. Et la meilleure façon qu'on a présentement d'avoir la paix en Ukraine, c'est si le peuple russe, si la population russe, les dirigeants russes, les oligarches, les riches hommes d'affaires russes, l'armée russe, arrête Vladimir Poutine. Il faut que ça soit une solution de l'interne, parce que si la solution vient de l'externe, ça va rempirer le problème, ça va augmenter les tensions, ça va augmenter la violence. Mais si c'est la population russe qui se retourne contre Vladimir, il n'y aura plus le support nécessaire et ça va amener à une fin, ça va amener à un coup d'État, ça va amener à quelque chose, mais il faut que la solution soit... Il faut que les Russes participent à la solution, sinon, comme je vous dis, ça va juste aller en empirant. Donc, c'est ce qui est plate parce qu'eux, présentement, sont cachés un peu de la vérité. Le message est contrôlé. Donc, il y a des gens qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe en Ukraine, en Russie, parce qu'on essaie de leur cacher.
Non, on dit que c'est une mission de paix. Exactement. On dit là-bas qu'on attaque des terroristes.
On n'a pas tué personne, exactement.
Il n'y a pas d'échange de coups de feu. Il ne se passe rien en ce moment en Ukraine pour
le
message russe.
Je ne sais pas si ça vous a passé, Jim, mais il y a de plus en plus de personnes qui vont sur Yelp ou sur des sites comme ça pour aller donner des critiques à des restaurants. Et dans le fond, au lieu de donner une critique de restaurant, il explique la situation en Ukraine dans les commentaires pour être capable de contourner la censure du gouvernement russe. Fait qu'il y aurait plein de gens dans plein de villes qui feraient ça pour informer la population. Fait que si tu veux aller manger au Subway de Saint-Pétersbourg, ben là, la critique, c'est Vladimir Poutine est en train de bombarder l'Ukraine puis de tuer des enfants puis de faire des... T'sais. Fait qu'on essaie de trouver d'autres façons de faire passer le message.
Pour contourner.
Exactement, parce que c'est tellement censuré. L'Internet russe est détaché du reste du monde. Ils ont un Internet qui leur est propre. Fait que Vladimir peut couper l'accès à la sortie et à l'entrée des choses de l'Internet russe. Il s'était détaché justement il y a plusieurs années pour contrôler le message et aussi la population.
Un commentaire de Mathieu Côté. Et puis ça, on n'en a pas parlé dans notre dernier live, notre dernier épisode, l'épisode 178 avec Stéphane. Le missile, la tête atomique Satan 2. Est-ce que tu la connais?
Satan 2, non, je ne connais pas.
Non, OK.
Je connais juste la Tsar Bomba.
La Tsar Bomba qui a été testée dans les années, c'est quoi, 50, 60?
Je pense c'est 60, les années 60. Ils ont fait peur avec.
Oui, ils ont eu peur, mais oui, le missile Satan 2 qui existerait, qui va à la vitesse de Mach 20, ça veut dire environ 25 000 km/h, c'est de la vitesse du son.
Donc, c'est deux fois le tour de la Terre en une seconde.
Oui, c'est vraiment l'enfer. Et puis, ce missile Satan 2 serait capable, aurait un rayon de destruction de 10 000 km. Là, c'est pas dans le commentaire de Mathieu, mais il dit que... Oui, moi, c'est ce que j'ai lu, un rayon de destruction de 10 000 km, ce qui veut dire que si, admettons, tu envoies ce missile-là sur l'Europe, eh bien, il n'y en a quasiment plus d'Europe.
Mais c'est un missile qui a été testé? Parce que si un missile comme ça aurait été testé, on l'aurait
vu. Il n'a pas été testé, mais sûrement qu'il n'a pas été testé parce que ça détruirait la moitié de la planète.
Exactement. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en ai aucune idée. Je peux pas.
Mais c'est quelque chose que j'avais entendu parler il y a plusieurs années, du temps que j'étais à l'école, aux
études. Mais en même temps, les Russes sont réputés pour avoir...
Mais tu sais, en même temps, c'est-tu vrai? On l'a jamais vu.
Ça fait partie de la propagande, peut-être.
Tu sais, peut-être qu'il y a des photos. Oui, voilà le missile de Satan 2 qui peut détruire l'Europe et qui va à une vitesse de 25 000 km/h, mais là-dedans, c'est quoi? Tu sais, c'est-tu vrai
carton,
ou bien c'est une coquille? Tu sais, on ne sait pas.
Peut
pas savoir. Ouais. Francesca Fleur de Lys, j'adore, qui dit, j'adore le commentaire, croyez-vous que la Russie envahira la Moldavie et la Géorgie. Moldavie, oubliez ça.
Je serais stressé dans ces deux pays-là, hein, pour vrai.
Géorgie, peut-être.
Mais même
Géorgie,
la Moldavie, parce que la Moldavie, il y a des rebelles pro-russes là-bas aussi. Sont,
mais la Moldavie, ça ne fait pas partie de l'OTAN?
Non, ils ne font pas partie de l'OTAN, eux autres non plus. Ils sont sur la ligne, ils sont vraiment juste sur le bord de l'Ukraine. C'est un tout petit pays. Fait que ça se pourrait que Vladimir se dise, tant qu'être rendu, on pourrait aller libérer nos frères moldaviens. Ah, mais
ils sont tellement occupés en Ukraine que tu ne peux pas...
Non, mais c'est peut-être un plan à moyen long terme. Puis la Géorgie, qui est dans le fond le pays au sud de la Russie, eux, la dernière fois qu'ils ont voulu se détacher de la Russie, ils ont eu une invasion armée également. Puis eux ont décidé de simplement capituler pour éviter le massacre. Fait qu'ils restent, je veux dire, indépendants, entre parenthèses, mais ils sont... très, très contrôlé par Moscou puis par la Russie.
OK. Omar Québec Hassan, désolé Omar, je vais lire ton commentaire et puis écris ta question parce que, comme j'ai dit, là, on n'a pas tous les commentaires, des fois ils disparaissent, OK, mais qui dit « Pourquoi vous ne lisez pas mes questions? » Bizarre. Alors Omar, je t'invite à sortir ta meilleure question et puis je te jure que je vais essayer de la trouver. Go!
On t'attend.
Vas-y, Omar, je suis désolé. Si ta question a du sens et que ça ne parle pas de... ça devrait être Poutine qui gouverne le Canada, je te jure que je vais le lire. Okay?
Moi, j'ai mis des filtres sur certains commentaires.
Ah, c'est pour ça qu'il y a des petits drapeaux. Peut-être. Alors, essaye, Omar, mais peut-être qu'on ne voit pas.
Et moi, il y a des choses que j'ai pu voir. Puis j'ai aussi... j'essaie d'épurer le plus possible parce que je ne veux pas non plus que ma page soit un vecteur de désinformation.
Et voilà.
J'ai une ligne éditoriale, je vous le dis. Puis ceux qui ne sont pas encore rendus compte, ben, il serait peut-être temps.
Ouais.
Parce que c'est clair que c'est sûr, mes opinions sont assez franches, assez directes. Donc, je n'irai pas polluer ça juste pour la fameuse liberté d'expression parce que la liberté d'expression a une limite et la mienne, ben, c'est moi qui l'ai dit.
Et voilà. Comme c'était, ben sûrement que ce commentaire-là, tu ne l'as pas mis dans tes conditions de liberté d'expression, mon cher, mais Cédric Clavet qui met un mime d'un chien qui fait un pet et c'est un cœur qui sort. J'ai.
je la comprends.
Oui, c'est ça. Ben, sûrement que moi, je le prends positivement. Alors, merci, Cédric. j'aime ça. Mathis Bélanger, pensez-vous que la Russie va essayer de prendre les autres pays qui ne font pas partie de l'OTAN après l'Ukraine? Moi, c'est une de mes craintes.
Ça se pourrait.
Mais comme j'ai dit tantôt, l'Ukraine, la Russie en a plein les bottes.
Ils en ont plus qu'ils pensaient.
Oui, ils en ont plus qu'ils pensaient. Je crois que réellement, Poutine pensait régler le cas de l'Ukraine en dedans de 48 heures.
Ah, tu penses? Un blitzkrieg, dans le fond, il l'a dit.
Un blitzkrieg qui durerait maximum une semaine. Mais il ne faut pas oublier que l'Ukraine, dès le mois de mars, c'est un pays où est-ce que là, il commence à faire plus chaud. Et puis là, qu'est-ce qui va embourber les Russes? C'est la boue.
Exactement.
Parce là, ça ne sera pas drôle.
De qualité
partout. Non.
C'est rural, l'Ukraine. C'est encore très, très agricole. Donc, les chars d'assaut et compagnie vont avoir beaucoup de difficultés à se déplacer. Puis là, c'est sans compter les pénuries d'essence qu'on voit, qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des convois partout qui manquent de gaz. Ça a l'air d'être un peu désorganisé. Donc, on n'en a aucune idée.
Quelque chose que je n'ai pas aimé, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, et puis c'est un commentaire de Marco Robillard. Et puis ça, c'est vrai, on l'a vu. J'aimerais vous entendre sur les allégations de racisme en Ukraine. J'ai entendu plusieurs choses inquiétantes sans savoir si c'est vrai. On a vu des étudiants étrangers être repoussés, si je peux dire, de train ou d'autobus pour faire entrer des Ukrainiens. Comment tu as trouvé ça, toi, de ton côté? Parce qu'on l'a vu, c'est
ça. Ça montre que malheureusement, même dans les pires situations, les plus grands défauts du monde ressortent quand même.
Ouais.
Puis là, je donne c'est un bon exemple aussi parce qu'il y a des gens de partout dans le monde qui sont prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens, mais quand c'est des réfugiés syriens, yéménites, afghans,
malheureusement,
il n'y a pas la même presse. Pourquoi? Parce que c'est littéralement une question raciale. Donc là, les Ukrainiens sont occidentaux, donc c'est des occidentaux, ils nous ressemblent plus. On les accepte, ce qui est un message qui n'a aucun sens parce que tous les pays du monde, tous les citoyens du monde devraient avoir la même chance, la même égalité, le même respect envers leurs conditions parce que en quoi un réfugié ukrainien est meilleur qu'un réfugié syrien ou en quoi un réfugié ukrainien est meilleur qu'un réfugié irakien? Ça n'a aucun sens. Donc ça montre qu'il y a une certaine hypocrisie, donc on est prêt à aider. Et c'est parfait, il faut aider les Ukrainiens, c'est pas ça que je dis, mais si on accepte d'aider les Ukrainiens, pourquoi on n'accepte pas les autres qui passent en même temps? Parce qu'il y a des mouvements migratoires importants, des mouvements de réfugiés importants, et là, on fait le tri pour laisser passer ceux qu'on veut et ceux qu'on ne veut pas, puis ça n'a complètement aucun sens. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie présentement, et ça, c'est documenté, et c'est surtout, de ce qu'on a compris, à la frontière de la Pologne où ça brasse le plus, puis aussi c'est là ouais. où il y a le plus de réfugiés. Donc, la montée de l'extrême droite en Europe est peut-être aussi pour ça, parce que la Pologne, c'est un gouvernement qui est très proche de l'extrême droite. La Hongrie, avec Viktor Orban, qui lui est ouvertement d'extrême droite, raciste, anti-homosexualité, etc., etc. Donc, il y a déjà des choses préconçues qui favorisent cette augmentation du racisme-là et des attaques envers les migrants non-ukrainiens, si on veut.
Très bonne explication, merci.
Merci.
Encore Chantal Brodkirk.
J'espère que tu prononces bien son nom.
Ben, j'espère parce que c'est.
Ça fait plusieurs fois, tu dis.
Oui, c'est ça. Brodkirk. Je crois que la pression économique va avoir plus de poids en Russie. Il faut que la pression vienne des oligarches.
Exactement.
Mais ces mêmes oligarches ont fait leur puissance grâce au régime de Poutine, justement. Donc, je me demande si ça va être suffisant.
Mais parce en même que temps, c'est vrai, les gens perdent de l'argent présentement. Je vais prendre un exemple.
Ils en perdent, oui.
Rosneft, qui est une des plus grosses compagnies pétrolières russes, aurait perdu 93 % de sa valeur. Quand les entreprises perdent tout leur argent, ça veut dire que les propriétaires vont perdre de l'argent. Fait qu'eux, dans le fond, ils ont profité d'un régime qui les enrichissait. Mais si le régime ne leur donne plus ce qu'ils veulent, ils vont mettre quelqu'un qui va recommencer à les enrichir. Donc, est-ce que ça va être pour le pire ou pour le mieux? Je ne pense pas présentement que ça peut être pour le pire, mais il faut que ça vienne de cette classe-là qui a la main mise sur la majorité de la Russie parce que Vladimir Poutine ne se tient pas au pouvoir tout seul. Ils se tiennent au pouvoir parce qu'il y a
c'est
des
eux.
Gens
c'est ça,
qui
c'est
le tiennent
eux,
exactement. Donc, si ces gens-là décident de le lâcher, ça risque de faire changer les choses. Mais pour le moment, il y a quelques milliardaires qui ont commencé à critiquer, mais critiquer Vladimir Poutine, ça reste encore un sport dangereux.
Mais en même temps, c'est eux qui le placent là. J'ai adoré le commentaire que quand j'ai fait mon intervention dans le crachoir en début de semaine, Frank Pocket a dit justement, à un moment donné, ces oligarches-là vont dire ben hier, c'était hier.
Exactement.
En voulant dire justement, on t'a placé là, mais là, ça ne fait plus notre affaire, on perd de l'argent à cause de ta guerre, j'ai fini moi.
Exactement. Puis c'est ce qu'il faut qu'il arrive, parce que comme je vous ai dit, il faut que la solution vienne de la Russie, parce que si la solution vient de l'extérieur, si l'intervention vient de l'extérieur, ça va juste amplifier, et c'est là où les risques de conflit mondial ou de guerre totale pourraient éventuellement arriver, parce que dès qu'un autre pays s'en mêle, ça va être le bordel, c'est sûr et certain.
Mmh. Cédric Clavet, avec son chien tantôt, qui dit « Je m'excuse, je l'ai accroché. » OK,
ben ça nous a fait un bon moment de podcast.
Oui, voilà.
De direct.
Oui. Mathieu Côté, l'appel de Navalny pour que les citoyens prennent la rue. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Pouvez-vous, pensez-vous qu'ils peuvent atteindre une masse critique pour affaiblir le régime? Moi, je pense que oui. Hey, les Russes, il ne faut pas oublier, c'est beaucoup de gens. Là. Si la population sort dans la rue...
150 millions.
Il y a beaucoup de monde. Là. Si la population sort dans les rues, et puis surtout à Moscou, et puis qu'on envahit le devant du Kremlin, maintenant, la police ne pourra pas...
Arrêter tout le monde.
Exactement. Là, on n'encourage pas la désobéissance civile, mais dans ce cas-ci, un peu quand même. Là. Moi, je pense que oui. Puis depuis quelques jours, je me dis justement ça. Est-ce que ça va finir comme ça? Que ce ne sera pas les puissances européennes qui vont mettre à genoux Vladimir, mais son propre peuple.
Quand le peuple va avoir assez souffert des sanctions économiques, qu'ils sont capables de s'acheter du pain, puis que ça va être le bordel, puis ça va être le retour à faire des fils pour aller se nourrir, comme dans le temps de l'URSS, ouais. Je te garantis que c'est là où ça va brasser, puis on dirait que Vladimir Poutine ne s'en rend pas compte, fait le pari exactement. Que les gens vont rester écrasés, puis ils diront rien. J'ai hâte de voir, j'ose espérer que les gens vont se réveiller, mais en même temps, on n'est pas dans leur situation, fait qu'on ne peut pas juger le peuple russe en ce moment parce qu'il n'y a personne qui voudrait être en Russie présentement avec Vladimir Poutine comme président.
Exactement. Pierre-Luc Bourgeois qui te demande précisément à toi, mon cher Joe, c'est quoi l'histoire avec les Azov?
C'est-tu...
Ça fait un épisode
de tout le problème qu'il y a avec la propagande pro-russe qu'on utilise parce que comme dans... pratiquement tous les pays du monde, il y a des gens d'extrême droite, il y a des nazis ou des néo-nazis plutôt, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, on les a vus, ils sont ouvertement membres de ce fameux convoi de la liberté qu'il y a eu, il y en a en France, il y en a partout, et il y en a aussi en Ukraine. Et de ces néo-nazis-là, l'Ukraine n'a pas de règles sur qui peut s'enrôler dans l'armée, donc n'importe qui peut s'enrôler dans l'armée, peu importe tes allégeances, tes croyances et compagnie. Et bien, il y a des néo-nazis qui se sont rassemblés dans un bataillon qui s'appelle le bataillon d'Azov, qui est un petit bataillon d'un petit territoire du Donbass qui, dans le fond, aurait des idées néo-nazis, mais ce n'est pas l'Ukraine au complet, c'est une petite partie de l'Ukraine. Et justement, par rapport à ça, Volodymyr Zelensky, c'est un juif. La majorité de sa famille a passé dans la Shoah, ouais. Dans l'Holocauste. Donc, de dire que les Ukrainiens sont nazis, c'est comme dire les Français sont nazis, les Canadiens sont nazis, parce qu'il y a un 3-4% de tatans qui font la promotion des idéaux racistes. Donc, c'est qu'on essaie de généraliser un petit élément qui est le régiment d'Azov. Il existe pour vrai, là, je le confirme, c'est pas une invention, mais c'est qu'on le met tellement plus gros qu'il est réellement, qu'on se sert de ça comme d'un argument, quand dans les faits, c'est comme partout ailleurs, c'est une minorité d'une minorité qui fait ces actions-là.
Je viens de me rendre compte pourquoi qu'on perd certains commentaires après un certain temps. Mais justement, c'est à environ 7 minutes. Fait que s'il y a des commentaires...
Comme notre gars tantôt, il n'a jamais fait son commentaire.
Non, il n'est pas revenu bizarrement. On te salue quand même. Si tu es encore là, on te salue. Mais il n'est pas revenu avec ses super commentaires qu'il nous promettait. Vincent Robitaille qui dit « Pourquoi Poutine n'utiliserait pas toute sa flotte d'avions? Pourquoi selon vous? » Ben moi, principalement, mais ce que je vois, c'est qu'en ce moment, il n'en a pas encore besoin. Il sert de ça. On s'entend que l'aviation militaire, c'est vraiment pas en dernier recours, mais quand tu veux vraiment frapper une dernière grosse frappe.
Je vais parler d'argent, mais ça coûte de l'argent mettre de l'essence dans ces avions-là, et les entretenir, les faire fonctionner. Donc, si les Russes manquent d'argent, ils ne pourront plus servir de leur bébelle. Ils ont beau avoir les meilleures armes au monde. Si l'arme ne fonctionne pas parce que tu n'as pas d'argent pour la faire marcher, ça va causer un problème. Fait que c'est probablement aussi une des raisons. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas juste le peuple russe. C'est que le gouvernement russe perd une fortune. Il y a même...
Ça demande énormément de ressources.
Je ne veux pas me tromper, c'est Baribas, PNP. Là, vous me corrigerez, les Européens qui m'écoutent. C'est la plus grosse banque européenne. Ou Petrobras. En tout cas, la plus grosse banque européenne... Qui s'est situé en France, le responsable de cette banque-là a annoncé que la Russie allait être en défaut de paiement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de payer leurs dettes en ce moment. Donc, s'ils ne sont pas capables de payer leurs dettes à l'Union européenne, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de payer aux États-Unis, de la payer à d'autres créanciers. Fait que s'ils n'ont pas d'argent pour payer ça, bien là, les agences de crédit vont diminuer leur cote, vont faire monter le taux d'intérêt de les dettes. Puis ça va être une réaction en chaîne. L'économie va complètement s'effondrer, comme on voit présentement. Le rouble, qui est la monnaie russe, vaut presque plus rien. La bourse est fermée présentement à Moscou. Elle a été fermée toute la semaine parce qu'on a vu une catastrophe au niveau boursier. Fait que c'est toutes des choses qui s'accumulent qui fait qu'éventuellement, les coffres vont être vides. Tu ne peux pas inventer de l'argent. Tu ne peux pas trouver de l'argent comme par magie. Là.
C'est ça. Et sinon, si, admettons, ils décident de créer de l'argent, justement, c'est impossible. L'inflation va être à des niveaux...
Dans le temps justement, l'Allemagne nazie, dans le fond,
où est-ce que ça va coûter des millions de roubles pour acheter un pain?
Exactement.
C'est impossible. C'est impossible à faire.
Et je crois que le pari de Vladimir Poutine, c'est qu'il pensait que la Chine allait plus l'appuyer que ça. Et ça, je vais en parler, justement.
Vas-y, Joe, parce que moi, je ne comprends pas en ce moment.
J'ai compris un peu pourquoi. Okay. Parce que la Chine, c'est le premier partenaire commercial de la majorité des pays du monde. Ça veut dire que tu fais de la business avec tout le monde et que si tu as des sanctions économiques, ben ça attaque directement ton économie. Fait que tu ne veux pas que les pays te fassent mal à ton économie pour appuyer quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a pas de lien direct avec toi, parce que la Chine n'a rien à gagner à ce que Vladimir Poutine gagne ou perde sa guerre en Ukraine. Donc, imaginez qu'on dit que demain matin, tous les pays de l'OTAN arrête de faire du commerce avec la Chine. Ça ferait mal à tout le monde parce qu'on a besoin de la Chine, mais ça ferait mal beaucoup au gouvernement chinois.
Ouais.
Et pourquoi Xi Jinping détruirait l'économie chinoise pour appuyer un Vladimir Poutine qui n'a pas l'air d'avoir toute sa tête? Donc, présentement, la Chine joue stratégique. La Chine, je ne dis pas qu'ils ne sont pas alliés de Vladimir Poutine, mais la Chine ne veut pas être impliquée de près ou de loin parce qu'ils ne veulent pas subir les contre-coups de décisions qu'ils ne prennent pas. Si les Chinois font des actions par eux-mêmes et qui ont des conséquences, ils vont les assumer. Et là, je pense à Taïwan qui pourrait peut-être être quelque chose éventuellement. Mais pourquoi on irait perdre des milliards et des milliards pour l'Ukraine? Ça donne absolument rien. Donc, c'est pour ça que présentement Vladimir Poutine se fait avoir. Lui, il devait être convaincu que la Chine allait lui faire dérouler le tapis rouge, envoyer des fonds puis de l'argent. Mais non, c'est le contraire. La Chine se détache de plus en plus. Et ça, c'est la grosse surprise jusqu'à maintenant dans les choses internationales, parce que c'était le pari de Vladimir Poutine que la Chine allait les backer jusqu'à
la fin. Exactement. Puis il doit tellement surpris, pas surpris, mais un peu de déception. Puis il doit se dire, Vladimir Poutine, en ce moment, il est où, là?
Ou il a été trahi, peut-être. T'sais.
Je me suis senti trahi, puis ça amène encore une autre couche de dangerosité, là. OK, la Chine n'embarque pas finalement dans mon délire.
Exactement.
Mais non, c'est sûr. Florence Bernard, un excellent commentaire, qui dit « Il y a un YouTuber slave, dans le fond, de Serbie, qui disait que le caractère slave peut poser problème. Les sanctions exercées par l'Occident pourraient donner l'effet inverse et, motiver les russophones, les Russes, en créant de la haine face à nous, les Occidentaux, vu qu'on sanctionne tout et n'importe quoi. » C'est une de mes craintes aussi, dans le sens que, justement, peut-être que ces éléments-là de sanctions économiques, etc., peut provoquer chez les Russes. Et puis, dans le narratif du gouvernement russe, regardez qu'est-ce qu'ils nous font. Là. On vous l'avait dit. C'est pour ça qu'il faut se défendre.
C'est peut-être pour ça qu'il y a encore beaucoup de Russes qui backent Vladimir Poutine. Peut-être qu'ils croient ce narratif-là, qu'on est victime d'une attaque économique, que tous les pays sont contre nous, il faut qu'on se défende. Et pour se défendre, on attaque l'Ukraine. C'est très, très plausible. Oui. C'est un super bon commentaire. Je suis tout à fait d'accord. C'est le couteau à double tranchant des sanctions économiques parce que c'est souvent le peuple qui est touché en premier et le peuple est souvent celui qui décide de garder ou de se débarrasser des politiciens.
Oui. Ah, Patrick Cadieux, qu'on parlait justement des vendus de médias. Puis peut-être qu'il y en a qui, justement, qui pensent qu'on est des.
Je suis payé à toutes les semaines. Moi, j'ai un chèque de la santé.
Ben, justement, un commentaire de Patrick Cadieux qui dit juste à regarder votre décor, on voit bien que tu es un vendu de Soros qui reçoit des chèques chaque semaine pour faire de la propagande. Sarcasme, hashtag.
Ouais, je l'avais compris parce que Patrick intervient souvent sur mes publications. Oh, donc, il y a une chance que tu avais dit son nom avant, mais
oui.
Effectivement, j'ai rien à gagner de faire ça. La seule chose que je gagne à faire ça, c'est ceux qui m'envoient des étoiles. Et je remercie tous ceux qui ont déjà envoyé des étoiles pendant les lives. Mais sinon, je fais pas ça pour l'argent. Je le fais parce que j'aime, de un, vous parler. Je trouve ça le fun de discuter avec vous. Puis de deux, je trouve que c'est important qu'on le fasse parce qu'il y a tellement de fausses nouvelles, de désinformation. Il y a tellement de choses sans contexte. Souvent, on voit des choses, une photo, une vidéo, pas de contexte.
Ah, c'est fou.
C'est ça, c'est là où ça devient dangereux. C'est là où on peut perdre la tête dans tout ça.
Et puis, la preuve qu'on aime ça, ben, gars, moi, je me suis déplacé jusque chez toi. J'aurais pu dire, Joe, ben, gars, moi, on m'a resté de chez nous.
Ma roulotte.
Ouais, c'est ça. Ben, je vais rester de chez nous pour pouvoir faire ça. Non, je me suis déplacé parce que je m'ennuyais de Joe, premièrement.
Ah oui, ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu, tu sais, on ne s'était pas assis pour faire de quoi.
Ben oui, exactement. Puis, encore là, je suis encore impressionné comment tu es grand. Moi, je suis tout petit. Hein. Moi, je suis un petit bedonnant. Je suis arrivé chez vous.
Ça paraît pas, regarde,
c'est
à la caméra.
Oui, mais c'est ça. Ça
se renfonce.
Moi, là, c'est ça. Non, il était impressionnant. Plus impressionnant que ce cher Vlad.
Qui est très petit en passant. Hein?
Oui, c'est un petit homme.
Il est très petit. 5 et 6 environ. C'est peut-être un complexe d'infériorité. Il y a beaucoup qui disent que c'est Napoléon II.
Un petit Napoléon, c'est
vrai. Son Waterloo, ça va être...
Oui.
Être Kiev.
Voilà. Un commentaire de Sabli Gagnon. J'ai défilé un petit peu. Désolé si j'ai pas lu votre commentaire. Ça disparaît au bout de 10 minutes. Puis on ne veut pas répondre en 30 secondes pour les questions. Là. Sabli Gagnon qui dit l'OTAN a ordonné à Poutine de cesser immédiatement l'attaque en Ukraine. Ce qui est vrai. OK, mais comme Poutine continue quand même, qu'est-ce que l'OTAN fera puisqu'il ne peut pas vraiment attaquer pour éviter une troisième guerre mondiale? C'est dur.
En fait,
qu'est-ce qu'il peut faire? J'en ai aucune idée.
En fait, ce qu'ils font présentement, l'OTAN, ce que l'OTAN est en train de faire, c'est qu'ils sont en train de renforcer tous les pays qui sont limitrophes avec l'Ukraine, donc la Pologne, la Hongrie, tous ces pays-là présentement, les pays baltes aussi, l'Estonie, Lettonie, Lituanie, au cas où Vladimir dépasse. Fait que dans le fond, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare au pire. On laisse la situation aller en Ukraine, on trouve ça plate, on donne des armes, on donne de l'équipement, de l'argent, mais on renforcit les défenses, on envoie des soldats tout le tour pour justement dire à Vladimir, tu ne traverseras pas la ligne, tu n'iras pas plus loin, parce que si tu vas plus loin, c'est le conflit généralisé. Donc, c'est comme, c'est la pression inverse. Vladimir met une pression de son côté, fait des menaces, de son côté, l'OTAN fait la même chose pour essayer de contrebalancer et essayer en même temps de calmer les idées, je vais dire, despotiques là, de Vladimir Poutine.
Exact. Marianne Arsenault qui dit « Alors, devrions-nous mettre des sanctions à la Chine? » Non, parce que la Chine, en ce moment, Marianne, demeure neutre. C'est surprenant. Moi, je trouve ça très surprenant. J'étais certain que la Chine endosserait les actions de la Russie de Poutine, mais non, tant que la Chine est neutre, elle a le droit d'être neutre. C'est pas de. Il ne faut pas prendre cette neutralité-là comme je suis pour Poutine, mais je ne veux pas le montrer. C'est pas ça. C'est vraiment, comme Joe t'a si bien expliqué, c'est vraiment du côté économique. Ça tuerait l'économie chinoise de dire OK, on sanctionne la Chine et tout l'Occident, ça veut dire l'OTAN, n'achète plus de produits chinois. Mais premièrement, je crois qu'on se ferait extrêmement mal économiquement au Canada.
La crise économique probablement pire que 1929.
Oui, parce que la Chine nous tient par le cipote.
Mais en même temps, ils ont besoin de l'argent. T'sais, les États-Unis sont le premier partenaire économique de la Chine et vice-versa. Fait que les deux pays sont dépendants l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas se faire la guerre. C'est impossible. Sinon, tu détruis celui qui t'enrichit et vice-versa. Donc, c'est comme un mariage de convenance. Ils se détestent, mais ils sont pognés ensemble. Fait que très, très étonné qu'il y ait un conflit entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est
presque impossible.
Tandis que la Russie, qui sont un pays un peu plus... Je veux dire, la Russie, c'est pas un pays riche. Ça. C'est le PIB de l'Espagne. C'est pas... C'est un pays qui...
À part l'arme atomique, la Russie... Depuis la fin de l'Union soviétique, c'est rien la Russie. Il ne faut pas penser, parce que sûrement qu'il y en a des gens qui se disent « Ah, oh, ben la Russie, la deuxième puissance, c'est une puissance. » Non,
ça l'est plus. C'est ce qui insulte le plus Vladimir Poutine aussi. Il veut rendre cette fierté-là.
Mais c'est presque impossible. Avec la Chine, avec l'Inde, tous les pays du coin de l'Inde, la Chine, etc., l'économie n'est plus autour de l'Europe et j'allais dire de l'URSS, mais de la Russie. Mais en ce moment, qu'est-ce qui fait craindre les économies, c'est vraiment le côté atomique de la Russie, ce n'est pas l'économie. Jojo Gar qui dit « Selon vous, si l'OTAN ne se serait pas autant élargi à l'Est, est-ce que le drame qui se passe en ce moment aurait eu lieu? »
Je ne suis pas certain. C'est
une très bonne question. Parce que si on écoute ce que Vladimir Poutine a dit juste avant le début de l'invasion en Ukraine, c'était vraiment un plaidoyer sur la non-légitimité de l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas une nation, l'Ukraine n'est pas un pays. C'est une invention de l'Occident depuis la fin de l'URSS. Avant ça, c'était une invention de Lénine. Il a même dit ça, disant que l'Ukraine, Lénine n'aurait pas dû reconnaître l'Ukraine, en faire une république soviétique. Mm-hmm. De délimiter les frontières de l'Ukraine, que l'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine, c'est la Russie. Fait que, juste pour revenir à ton commentaire, moi, je pense que non, si l'OTAN avait dit directement à Zelensky non, l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN, je pense qu'on ne serait pas là.
Ben en fait,
je crois.
Il faut faire attention aussi parce que tous ces pays-là sont libres et indépendants de aussi, faire. C'est vrai, ouais. Il n'y a personne qui a de compte à rendre à la Russie. Donc, il n'y a personne qui a justifié dans quelle alliance il est ou non. Donc, présentement, Vladimir Poutine essaie d'avoir la même autorité sur ces pays-là qu'on avait dans le temps de l'URSS. Et pourtant, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus d'obligation. Donc, que Vladimir Poutine ne soit pas d'accord, il a le droit. Mais en théorie, il n'y a pas le droit de rien faire parce que chacun de ces pays-là peut décider demain matin de faire ce qu'ils veulent. Ils pourraient aller joindre l'Union européenne s'ils veulent. Ils peuvent joindre l'OTAN. Ils pourraient rejoindre n'importe quelle organisation. Et que ça lui plaise ou non à Vladimir, il n'y a pas un mot à dire. C'est pas lui qui gère le pays en question.
Ça fait 30 ans.
Exactement.
Alors, reviens-en, maintenant, c'est ça. Hein?
Ben, je pense que c'est ça le problème.
Il n'en revient pas, tout simplement. Marie-Ève, sans nom de famille. Alors, bonjour Marie-Ève, qui dit « Comment je peux vous envoyer des étoiles, Joe? » Moi non plus, elle dit « C'est nouveau pour moi, les lives, des étoiles. » Moi, je ne suis pas familier avec ça.
Je ne sais pas comment vous écoutez les vidéos, mais sous la vidéo, il y a comme les réactions, les cœurs, les pouces, les faces, les petits bonhommes. Mm-hmm. Puis il est censé avoir une étoile. Tu cliques sur l'étoile, en fait, puis ça envoie. C'est comme un pourboire, si vous voulez. Là, tu peux décider du montant. Une étoile équivaut à un sou, si je ne me trompe pas. Donc, si tu envoies 100 étoiles, tu envoies 1$. Et c'est débité sur PayPal, carte de crédit et compagnie. Il y a aussi la même chose sur Twitch, sur YouTube.
Je voulais dire, Twitch, c'est pas mal la même affaire.
C'est dans le fond, c'est des façons que les sites web ont trouvées pour se déresponsabiliser, pour ne pas avoir à payer les créateurs de contenu. Fait qu'ils donnent des options pour que ce soit les gens qui écoutent, qui encouragent les créateurs de contenu. Et si jamais c'est quelque chose aussi qui vous intéresse, sur la Terre des Hommes, le podcast a un patronat. Donc, vous pouvez vous abonner pour être patron de Sur la Terre des Hommes pour avoir...
Oui, puis c'est pas... pour revenir à ça, le Patreon, il y en a des gens... Ben là, moi, je veux pas payer 20$.
J'ai déjà...
Ben, puis en plus, c'est vrai que c'est déjà gratuit, nos podcasts, mais c'est pas le Patreon de Sur la Terre des Hommes, en passant, Patreon, patreon.com/sltdh. Dans le fond, les patrons, le Patreon, tu peux donner 1$ à tente. Puis c'est pas 1$... par jour ou par semaine, c'est par mois. Si vous aimez notre contenu, comment tu as dit ça?
C'est sans obligation. Là, tu peux
il n'y a aucune obligation, absolument, tu as raison. Si vous voulez donner, admettons, si vous dites, mais moi, là, j'aime votre travail, je vais vous encourager pour 5 $, mettons, mais c'est tout. Ben, deviens patron un mois, puis c'est tout.
Dans ce temps-là, tu peux
assister. C'est bien correct, on l'accepte.
Parce que les lives que vous voyez présentement, on les fait juste au patron d'habitude. Donc, c'est un avantage que
c'est vrai, ouais.
Et ils ont accès aux épisodes en primeur. Ils ont accès à plein de choses que les autres n'ont pas. Et ça m'amène aussi au deuxième point, qui est ceux qui s'abonnent de façon payante à Jonathan le prof. Il y a ce qu'on appelle le fameux soutien, qui est sur le même principe qu'un Patreon. C'est que, dans le fond, tu peux payer un montant qui est 2,50 canadiens pour être, justement, dans un groupe exclusif qui a droit à des primeurs. Et toutes les choses qui se passent avec Joe le prof sont dites dans le groupe de soutien en premier, c'est comme la récompense de ces gens-là. Ces gens-là me donnent une reconnaissance incroyable. Moi, des gens qui m'encouragent comme ça, je trouve c'est complètement fou. Donc, ils ont comme récompense à leur tour des exclusivités, des choses que je partage tout simplement pas sur mes autres réseaux parce qu'il y a des choses que je veux garder plus intimes. Et si vous voulez être plus intime sans faire de mauvais jeu de mots avec Joe le prof, si vous voulez avoir plus de trucs qui sont, personnels à ma vie de tous les jours, ben, je vous invite à devenir un abonné ou un supporteur ou un soutien, le dépendamment. Et pour le faire, vous allez sur ma page et juste en haut, sous la bannière, c'est marqué « devenir soutien » ou « devenir supporteur » dépendamment de vos trucs de navigation. Et comme je vous dis, c'est tout annulable. Tu sais, c'est à un moment donné, tu te rends compte, bof, c'est pas pour moi, t'annules tout simplement. Ou si
tu exactement. Que... c'est pas un abonnement que c'est dur de te désabonner puis que je suis prêt avec ça puis je veux plus leur donner. Mais c'est ça, c'est facile. Dans le fond, je parle du Patreon, il y a l'option annuler l'abonnement, puis c'est tout. Puis justement,
on s'en doutera pas non plus.
Non, exactement. Tu sais, il y en a eu des patrons. Tantôt, je parlais justement de Mélissa. Mélissa, elle a été patronne quelques mois, puis elle est partie, mais il n'y a pas eu d'affaire de « pourquoi? » On a dit « pourquoi? » Puis là, il n'y a pas eu de lynchage public. C'est vraiment pour nous encourager et puis surtout reconnaître notre travail, c'est certain. Nous, ça nous permet, tout l'argent du Patreon est réinvesti. Tu sais, là, présentement, ce laptop-là.
Le matériel qu'on a, c'est...
C'est le matériel, parce que allez écouter Sur la Terre des Hommes, épisode 1, puis vous allez comprendre pourquoi que c'est important Patreon. C'est juste ça que j'ai à dire.
On est rendu très bien équipé. On a la lumière, c'est... la caméra, on a les micros, la carte de son. T'sais, là,
c'était
on peut
ridicule,
avoir un produit
Joe.
De qualité. Là, présentement, le live, il est pratiquement qualité studio parce qu'on a accès à tout. La seule chose qui bug présentement, c'est l'Internet qui n'est peut-être pas numéro un, mais ça, c'est
la t'as pas un fil, un fil, toi, ici?
Ouais, il est juste pas assez long pour se rendre parce que ma connexion...
La prochaine fois, Joe, je vais l'amener.
Excellent.
Parce que c'est ça, dans le fond, le Patreon, on n'a pas en ce moment un projet, depuis moi, Joe, de s'acheter un char sur la Terre des Hommes, un château, de se payer un studio. Non, non. Ce qu'on gagne, c'est réinvesti dans le matériel premièrement. Puis si un jour, on a 1000 patrons, ben qui sait ce que l'avenir peut nous apporter. Mais c'est vraiment une reconnaissance. Et puis surtout, c'est du contenu que vous aviez droit. Par exemple, là, c'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine, avec tout le monde, en temps normal...
Tu sais, quand les postes de télévision sont débrouillés pendant un mois...
Oui, là, on est débrouillés pour le mois de fin février et puis le mois de mars. Mais quand on fait des épisodes, là, peut-être que l'Ukraine, on va en parler tout le temps en live devant tout le monde. Ça vaut la peine, les gens sont là, les gens aiment les explications, etc. Mais quand on fait un épisode, admettons, là, je dis ça comme ça, là, la semaine prochaine, on fait un épisode, admettons, sur les Romains. Je dis ça de même. On ne le fera pas live devant vous. C'est pas qu'on ne vous aime pas, OK?
Mais vous allez avoir droit à l'audio.
Mais les patrons, l'audio va être là dans deux semaines, une semaine et demie, deux semaines, le podcast, mais les patrons, eux, sont là. Ils peuvent
participer comme vous faites là.
Ils participent, on lit les questions, etc. Fait que c'est ça les avantages. Et puis, il y a plusieurs avantages. Là, je ne veux pas les amener ici. Mais si vous voulez nous encourager, patreon.com/SLTDH pour Sur la Terre des Hommes et puis pour Joe le prof.
C'est simplement cliquer sur devenir supporter. Il y a même l'option sur le live que vous écoutez si vous êtes directement sur ma page. Devenir soutien, supporter, abonnement, dépendamment, c'est jamais écrit de la même façon.
Exactement. Mélissa qui dit les raisons pourquoi elle n'est plus patronne, tu n'es pas obligé, Mélissa.
Okay. On ne les dira pas non plus.
Ben exactement, regarde, tu es en congé, on comprend. Là. Merci beaucoup de l'avoir été, ma chère. Mon cher Joe Saint-Pierre, dit le prof, est-ce que ça fait le tour? Là, on a quelques questions, mais ça revient un peu.
Ça revient au même?
Ça revient au même, mais Je veux terminer, mon cher.
Une dernière question, c'est bon.
Devine par qui? Par Chantal Broquet.
Qui a été notre principale collaboratrice.
Oui, et puis Chantal revient à tous les lives parce que tu es très intéressante. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de l'ONU? Me semble qu'ils sont complètement obsolètes avec les droits de veto des pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on parle surtout du Conseil de sécurité sûrement. La Russie qui a un droit de veto, c'est complètement aberrant. Et puis, je suis totalement d'accord avec toi.
Jérémy, je pense que ce qu'on va faire, là,
oui,
c'est que le prochain live va être sur ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire.
C'est une
très bonne question, mais on ne peut pas y répondre simplement. Fait qu'on va devoir garder soit un épisode ou un live, mais
En gros, on peut faire quand même un résumé, notre opinion personnelle.
En gros, c'est que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale se sont donné une carte que les autres n'ont pas.
Exactement.
Et cette carte-là est valide à vie. C'est comme
avec le Conseil de sécurité, en passant, le fameux Conseil des cinq qui réunit États-Unis, Russie, Chine. Chine, pourquoi? Parce qu'elle se faisait envahir par le Japon. Mm-hmm. France, Grande-Bretagne. Okay? Les vainqueurs, si on veut, de la Deuxième Guerre mondiale. Un pouvoir. C'est ça, exactement. Et puis l'ONU, juste pour dire sûrement que Chantal parle du vote qu'il y a eu justement avec les
141 pays qui ont voté contre l'invasion de la Russie.
Exactement, quasiment toute la planète.
Et 5 pays qui ont été d'accord avec les Russes, dont la Russie elle-même.
L'Érythrée, la Corée du Nord,
la Biélorussie.
Biélorussie.
La Syrie. On s'entend, quand tu veux des appuis comme l'autre internationale, c'est pas tes premiers choix.
Exactement.
Sauf Vladimir.
Et puis, on va en parler dans un autre, peut-être notre prochain épisode, ça pourrait être ça, le rôle de l'ONU.
Stéphane, je pense qu'il pourrait nous
Stéphane,
aider. On va aller chercher Stéphane pour ça.
Prof Roussel va vous répondre à ça. Mm-hmm. Mais moi aussi, juste pour répondre, Chantal, justement, dans ce conflit-là, je me demande où est l'ONU? Où est son pouvoir? En ce moment, j'ai l'impression de voir la vieille Société des Nations.
Exactement.
Sans pouvoir.
Absolument rien.
Oui, puis c'est des formes, tu sais, oui, des comment je dirais ça, on met la Russie sur le banc des accusés. Par exemple, quand le délégué à l'ONU de Russie est allé parler, ben là, il y en a plusieurs qui ont quitté la salle. T'sais, oui, c'est bien beau. Là,
c'est très symbolique.
C'est symbolique, mais à un moment donné, faites de quoi, là?
Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu
fasses? C'est ça.
C'est pour ça que ça nous prend un épisode pour en parler, parce que c'est tellement un sujet complexe.
Ouais.
C'est ça. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais l'ONU, ouais, effectivement, présentement, sont très faibles, on va dire comme ça.
C'est très faible. Alors, mon cher Jonathan Saint-Pierre de Pauvre, je te remercie de m'avoir accueilli dans ton.
Ça me fait plaisir.
Dans l'antre de la bête.
Puis j'espère que vous avez apprécié le nouveau concept. On va peut-être le réessayer éventuellement.
J'ai adoré ça, toi.
C'est vraiment cool. Je suis content d'avoir enfin pu faire un épisode autrement que par l'écran.
c'est ça, parce que nous, moi et Joe, on est des amis de pandémie. On s'est vraiment, on a vraiment appris à se connaître pendant la pandémie.
Parce qu'on a décidé de faire des podcasts quasiment deux par semaine. Parce qu'on
c'est
a
l'enfer.
Besoin de faire,
hein,
de quoi? Donc on a...
ouais. Au début de la pandémie, je me souviens, on faisait un épisode de Sur la Terre des Hommes et puis un autre de discussion de COVID, dans un
tube. Ouais,
on en a fait deux par semaine pendant environ 3 mois. On s'en est brûlé. Et puis, moi, c'est ça le danger que je veux pas qu'il arrive avec Sur la Terre des Hommes, c'est qu'on s'écœure. Puis qu'on stand. Mais en ce moment, avec le conflit en Ukraine, c'est tellement important, mais surtout intéressant, justement, du côté géopolitique.
Exactement.
Politique.
Historique aussi, parce que
historique.
La majorité des causes de ce qui se passe présentement datent de 100 ans. Donc,
exactement.
Pour reculer, pour comprendre aujourd'hui et comprendre aussi ce qui s'en vient, parce qu'on peut déjà faire les prédictions sur la suite des choses, mais ça, ce sera pour un autre épisode.
Et voilà. Alors, merci beaucoup, mon cher Jonathan. C'est vrai que là, je te dis merci beaucoup, pareil, comme si c'était un épisode de Sur la Terre des Hommes, mais c'est ton live à toi.
Mais c'est notre live, en fait. C'est
oui.
Joe le prof plus Sur la Terre des Hommes, comme il était dans la petite bannière en bas, 3 mars 2022.
Alors là, on a des merci de tout le monde.
Merci à tous d'avoir été là.
Nancy, Nance, Laurence, Mélissa. Merci les profs. Alors, on vous remercie à vous d'avoir pris de votre temps.
Moi, en semaine de relâche, on triche.
Oui, il y en a beaucoup en relâche. Oui, c'est vrai. Alors, on triche, on continue à enseigner. Voilà. Alors, merci à tous et à toutes. Et puis, à très bientôt pour un autre live.
Un autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes et un autre truc de Joe le prof, dépendamment de comment on fait.
Absolument. Alors, bonne fin de journée tout le monde.
Salut tout le monde.